partie de l'Oumo, entre peinture et sculpture, entre son île et l'Afrique. Un essai sur l'histoire africaine et l'histoire du monde, attendu en cette rentrée, Born in Blackness, Noir Origine en français, pour montrer le rôle souvent invisibilisé de la traite négrière dans la construction du monde moderne. Son auteur sera notre invité, l'universitaire et journaliste américain Howard French. On parlera justement des États-Unis, tiens, après ça, et de la politique. Comment Donald Trump récupère le drame des ouragans Milton et Helene? Mais d'abord, les terrains de sport, on se met en jambes sur la radio du monde. Bonjour Olivier Pro.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Et rien que du foot au programme ce matin avec vous, la suite de la troisième journée de qualification pour la CAN 2025.
16 matchs au programme hier Sébastien, et déjà de belles options prises en vue de la qualification. On va y revenir, d'abord l'exploit du jour, ou à tout le moins le gros coup, le succès 1-0 des Comores en Tunisie, but de Rafiki Saïd, le joueur de 3, après l'heure de jeu pour laisser la cante. 118e nation au classement FIFA, une victoire à l'extérieur qui relance les Comoriens dans la course. S'ils reviennent à un point des leaders tunisiens qu'ils viennent donc de battre. On écoute la satisfaction mesurée, toutefois, du sélectionneur Stefano Cusin.
C'est sûr que c'est une belle performance. Bon, je pense qu'on a fait un bon match, aussi bien tactiquement qu'au niveau de l'engagement. Maintenant, le football, ça va très vite. Hein. Il faut rester humble et travailler. Il y a des matchs, il y a un autre match qui va se jouer mardi. Et là, c'est sûr qu'il va falloir être à la hauteur, parce que ça serait une Tunisie revancharde, certainement une autre équipe. Et donc, l'important, c'était de se relancer dans la course pour la qualification. Et maintenant, il faut continuer le travail. On est un projet, mais bon, en même temps, on essaye aussi de faire des résultats. Et je suis fier des garçons. Je pense qu'ils ont tout donné ce soir. Et la victoire, c'est le fruit d'un travail collectif.
Stéphane Cusin avec Martin Guèze, et mardi à Abidjan pour le retour. Donc, ce sera Comores Tunisie.
Une victoire aussi, et large celle-ci, Olivier, pour le Cameroun, mais qui n'est pas sorti des problèmes pour autant.
Ah oh ben, rien n'est jamais simple dans ce pays, voyons, en tout cas en foot, et c'est pour ça que vu de l'extérieur, c'est plutôt rigolo, c'est un feuilleton, on peut se racheter des pop-corns, c'est reparti pour un tour. Les Lions indomptables ont battu à Yaoundé, sinon le Kenya, 4-1, ça c'est bien, mais avec, avant l'entame de la rencontre, Joachim Mununga, l'assistant du sélectionneur Marc Brice, a été interdit de bande touche parce que son nom tout simplement ne figurait pas, bon, c'est ballot, sur la liste envoyée par la fédération camerounaise de foot au commissaire de la rencontre. Marc Brice n'a pas du tout apprécié, vous allez l'entendre. Il menace carrément de démissionner si cela se reproduit encore. Il est au micro de Joël Ouadem.
Je suis très 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 fâché. Il y a 2 semaines, on va commencer de travailler ensemble avec FECA Foot. Je dois dire, c'est très bien passé, vraiment. Honnêtement, j'avais peur parce que c'était pas du tout en bonne relation. J'étais étonné devant le match. Il y a toujours le commissaire du match, tu donnes votre joueur, votre liste, ceux qui commencent, ceux qui sont sur le banc. Et encore une fois, ils ont fait ça derrière mon dos, de faire une liste et pas mettre mes assistants dedans. Alors, je te promets, si ça arrive encore une fois, et c'est une déclaration, j'arrête immédiatement. C'est le 4e ou le 5e fois, hein, pas la première fois. Celui qui prend des décisions, qui est sur le banc ou pas, c'est moi. Alors tu dois respecter ça et pas faire des choses derrière mon dos.
Oh, quelle rigolade, vivement le prochain épisode. Pas content, Marc Brice,
ah,
on
oui.
le comprend.
Hein. Mais oui.
On va se racheter des pop-corns, je vous le disais. Le Cameroun en tête de sa poule, hein, quand même, avec 7 points, 2 de plus que le Zimbabwe. Le Kenya est à 3 longueurs.
Bon, on jette un coup d'œil sur les autres résultats maintenant, Olivier. Et des favoris au rendez-vous.
Oui, alors on peut pas tous les données, les résultats. On vous donne ce qui nous semble très important. 3 victoires en 3 matchs et donc la qualif en vue dès lundi ou mardi pour l'Égypte. 2-0 face à la Mauritanie. Pareil pour la Côte d'Ivoire à San Pedro. 4-1 aux dépens de la Sierra Leone. 9 points aussi. 3 victoires en 3 matchs pour l'Angola qui a battu le Niger 2-0. Ça va pas mal pour le Mali. 1-0 à Bamako face à la Guinée-Bissau. El Bilal Touré a marqué. Les Aigles sont en tête avec 7 points de 2 plus que le Mozambique. Enfin, groupe D, le Nigeria est devant après un succès 1-0 sur la Libye. Le Bénin est à 1 point après avoir battu 3-0. Le Rwanda, fin de cette 3e journée ce samedi. Guinée-Éthiopie, 16h TU à Abidjan et à 19h Maroc, République Centrafricaine. Dans ce groupe-là, grosse contre-performance hier du Gabon à domicile. 0-0 seulement face au Lesotho.
Le journal des sports sur RFI. Olivier Pron, à tout à l'heure. 4h 46 en temps universel. Un coup d'œil sur l'actualité internationale et ces deux casques bleus de la finule blessés par une frappe israélienne hier dans le sud du Liban. Deuxième incident de ce type en 48 heures. Nouveau tollé international. La France notamment a convoqué l'ambassadeur d'Israël hier dans une déclaration commune. Emmanuel Macron d'ailleurs, Giorgio Meloni et Pedro Sanchez condamnent des attaques injustifiables qui doivent cesser immédiatement. Joe Biden appelle Israël à ne pas frapper les troupes de la finule. Le prix Nobel de la paix décerné hier à Nihon Hidanko, l'organisation japonaise qui représente les survivants irradiés des bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki. Situation toujours tendue en Martinique malgré l'instauration d'un couvre-feu nocturne sur fond de protestations contre la vie chère. Toute la nuit, les forces de l'ordre ont tenté de contenir les émeutiers qui ont érigé des dizaines de barrages à travers l'île française des Antilles. Il présente ses racines africaines comme une source d'inspiration. Un voyage tout personnel que réalise à 29 ans le peintre El Hadj Lincy Delumo. Noué, né en Guadeloupe, il crée depuis quelque temps sur le continent à travers des résidences au Sénégal et en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire où ses travaux entre peinture et sculpture sont à voir en ce moment dans une expo présentée à la galerie Cécile Fakouri d'Abidjan. Pour notre reportage du jour, suivez le guide, notre correspondante Marine Janin.
L'exposition se veut d'abord immersive. Les décors d'étoiles sont répliqués sur les murs, couverts d'argile ocre ou de carreaux de salle de bain. Elle est aussi interactive puisque le visiteur est invité à manipuler l'étoile sur un panneau coulissant, à s'observer dans une œuvre pourvue d'un miroir ou à marcher sur une sculpture en forme de puits. Toute cette scénographie, soigneusement étudiée, est le résultat d'un travail de famille, révèle Rosie Noah, manager à la galerie Cécile Fakouri.
La scénographie, elle a été pensée en grande partie par sa petite sœur, Orlane Nancy Delumo, architecte d'intérieur. Donc ils ont vraiment pensé toute cette scénographie ensemble et elle est construite en trois étapes, trois espaces. Il y a un peu cette idée de circularité aussi où on a cassé les murs, certains murs de la galerie pour créer des arrondis. Et on a transformé la galerie, on n'a pas du tout l'habitude de le faire. Donc ça a été un gros travail, mais c'est vraiment magnifique.
Les matériaux utilisés sont guadeloupéens ou ivoiriens, du bronze, du bois, du rotin, du sable. Pour cette exposition, El Hadj Lincy Delumo a effectué une résidence artistique de 4 mois dans la ville côtière de Grand Bassam. Il mêle les références culturelles des deux territoires à travers les motifs du littoral, de la mer et du jardin.
Le jardin, c'est un espace familier, connu, quelque chose de très intime. J'ai eu l'opportunité de rencontrer pas mal de personnes qui ont quitté leur pays d'origine, leur zone de confort familier, pour pouvoir se diriger vers l'horizon en prenant la mer et explorer d'autres territoires. Et ce qui m'intéresse, c'est comment, en fait, malgré ces changements de territoire, de culture, d'ambiance, comment, en fait, ils ont pu créer leur propre intimité en y apportant du chez-soi, en fait, par rapport à leur territoire qu'ils ont quitté, et comment, en fait, avec ce nouveau territoire, ils ont pu créer quelque chose de nouveau.
C'est justement le thème de l'afro-descendance qui a séduit Abishak Vundi, peintre martiniquaise venue découvrir l'exposition. Elle suit le travail de l'artiste depuis ses débuts.
Il travaille la peau noire, il travaille d'une façon qui, moi, me plaît, qui est un peu nostalgique. Et moi, je suis très heureuse qu'il arrive ici, à Abidjan, pour cette exposition. Il crée un vrai ancrage. C'est cet aspect aussi que je trouve important en tant qu'afro-descendant, en tant que jeune artiste, qu'il puisse s'ancrer sur la terre-mère et qu'il soit accueilli de cette façon.
L'exposition Au-delà du jardin, il y a la mer restera visible à la galerie Cécile Fakouri jusqu'au 28 décembre. Marine Janin, Abidjan, RFI.
Et ce reportage est à podcaster, à partager sur Internet évidemment, comme la plupart de nos contenus. 6h50 à Paris, une plume comme invité ce matin sur RFI, l'universitaire et journaliste américain Howard French pour parler de son ouvrage Born in Blackness, Noires origines dans sa traduction française, l'un des essais historiques en lien avec l'Afrique les plus attendus de cette rentrée. Howard French est au micro ce matin de Laurent Corot.
Bonjour Howard French.
Bonjour Laurent.
Dans Noire Origine, vous nous invitez à nous débarrasser d'un certain nombre d'œillères historiques sur la place de l'Afrique dans l'histoire mondiale et sur le rôle essentiel qu'elle a joué dans la construction de l'Occident tel qu'on le connaît aujourd'hui. Vous nous expliquez que l'essor européen a reposé en grande partie sur ses relations avec le continent africain avant même la colonisation.
Effectivement. L'histoire de mon livre commence dans le 14e siècle, au début de ce siècle, quand les Africains, notamment dans l'Empire du Mali, réalisent des contacts avec le Moyen-Orient. Et ce faisant, l'Europe découvre l'existence d'une grande quantité d'or dans le Sahel, ce qu'on appelle le Sahel d'aujourd'hui. Et cela a lancé l'ère de l'exploration, de découverte et la traite d'esclaves.
C'est l'un des points importants de votre ouvrage Howard French. Vous soutenez la thèse dans ce livre que la recherche avide de cet or africain par les Portugais a été l'un des moteurs des grandes explorations portugaises et que ce moteur a été complètement oublié de l'histoire.
Effectivement, le Portugal avait une rivalité avec l'Espagne et le Portugal avait pris les devants dans l'exploration du Nouveau Monde. À l'époque, le Nouveau Monde n'était pas l'Amérique. Les Européens disaient que l'Afrique sous-saharienne est le Nouveau Monde. En 1471, ils sont arrivés par hasard au pays qu'on appelle aujourd'hui le Ghana. Ils ont découvert que tous les habitants de ce lieu portaient des bijoux en or. Ils n'étaient pas arrivés au Mali, mais ils ont réalisé leur but un peu par accident, si vous voulez. Donc, ils ont établi des relations de commerce au début avec les Ghanéens. Les quantités d'or étaient aussi importantes pour le Portugal, qui était un pauvre royaume à l'époque, qu'ils ont renommé leur trésor une maison de l'Afrique. À l'époque, après la découverte de l'or au Ghana, à peu près un tiers jusqu'à la moitié des recettes de ce royaume venaient désormais du Ghana.
Quel lien est-ce que vous établissez, Howard French, entre cette exploitation de l'or et le commerce terrible qui va commencer à se développer rapidement ensuite, à savoir la traite esclavagiste?
Le Portugal était un royaume assez pauvre, qui n'avait pas beaucoup de ressources. Et donc, pour financer la recherche de l'or et la construction des bateaux nécessaires à cette recherche, Henri le navigateur et ses hommes ont commencé à faire petit à petit un commerce d'esclaves sur les côtes de l'Afrique. La Mauritanie d'aujourd'hui, au Sénégal, en Guinée, etc. Et les Portugais, à la fin de ce 15e siècle, explorant l'Afrique à la recherche d'autres sources d'or, ils ont découvert l'île de São Tomé qui n'avait pas d'habitants et avait un climat parfait pour la cultivation de la canne à sucre. Et donc, ils ont commencé à cultiver la canne à sucre et toute une industrie est née de cela. Et avec la naissance de cette industrie est aussi née une forme d'exploitation humaine qui n'avait jamais existé auparavant, qu'on appelle en anglais « chattel slavery ». Je pense que ce terme n'existe pas en français. Chattel slavery, c'est une forme d'esclavage où les esclaves sont identifiés et pérennisés à travers des générations. C'est-à-dire, non seulement vous êtes esclave vous-même, mais vos enfants aussi seront esclaves et ainsi de suite pour une éternité.
Et les formes de travail qui sont mises en place dans ces plantations sucrières sont par ailleurs extrêmement brutales pour les esclaves.
Extrêmement brutal. L'espérance de vie d'un esclave mis au travail sur ses plantations à l'époque et aussi par la suite au Brésil et dans les Caraïbes était à peu près 5 ans.
Après la production du sucre, c'est celle du coton qui a été développée par le commerce des esclaves. Au total, Howard French, vous décrivez une mécanique qui convertit des vies prises en Afrique en richesses consommées en Europe. Vous montrez finalement comment l'Afrique a joué un rôle essentiel dans la construction du monde atlantique.
Oui, je dirais encore plus que c'est le travail des Africains sous forme d'esclavage qui a rendu possible la rentabilité des colonies qui ont été fondées dans le Nouveau Monde et donc la fondation même de l'Occident. Il est important de remettre l'Afrique à sa propre place dans l'histoire de l'humanité.
Howard French, merci.
Merci beaucoup, Laurent.
Entretien de Laurent Corot avec l'universitaire et journaliste américain Howard French qui publie donc l'essai historique Noir Origine. C'est à lire aux éditions Calmann-Lévy. Quand les éléments se déchaînent, comme chaque samedi sur RFI, Le Monde en question avec Bruno Daroux. Et cette semaine, Bruno, vous revenez sur les deux ouragans, Helene et Milton, qui ont frappé les États-Unis et sur la manière, surtout, dont Donald Trump et ses partisans, en pleine campagne électorale, ont cherché à attaquer sur ce dossier, justement, les démocrates, Joe Biden et Kamala Harris. Alors Bruno, comment expliquer qu'un tel événement soit politiquement récupéré à ce point par l'ancien président ?
Eh bien, en grande partie, bien sûr, par l'approche de l'élection présidentielle du 5 novembre, tout en précisant que dans une démocratie, lorsque survient ce genre de catastrophe naturelle, il est normal d'observer comment réagissent les services concernés et les responsables politiques, puisqu'il s'agit de porter secours à des dizaines de milliers de citoyens le plus efficacement possible. Mais ce phénomène est très accentué aux États-Unis pour plusieurs raisons. D'abord, Milton a été le deuxième ouragan en 2 semaines à s'abattre sur le pays, après l'ouragan Helene, qui avait fait plus de 200 morts. Ensuite, nous sommes donc à un peu plus de 3 semaines de l'élection présidentielle et les résultats s'annoncent très serrés dans les États clés, notamment en Géorgie, en Caroline du Nord, qui ont été touchés par l'ouragan Helene. Enfin, il y a le rôle des médias sociaux et leur utilisation par Donald Trump et ses partisans.
Les Trumpistes qui, justement, Bruno, ont fait s'abattre sur le pays un tsunami de désinformation à propos de ces ouragans. Est-ce qu'on peut vraiment s'en étonner ?
Non, malheureusement, et c'est une stratégie bien sûr délibérée, quitte à raconter n'importe quoi. Il a par exemple été question de complots ourdis en secret pour accaparer les terres des victimes, ou encore de rumeurs propagées par Trump lui-même, affirmant que l'argent des secours avait été détourné par l'administration Biden pour aider les immigrés clandestins. Le candidat républicain a aussi suggéré que les démocrates faisaient tout pour empêcher l'aide d'arriver dans les comtés qui votent républicains. Last but not least, le gouvernement aurait lui-même orchestré les catastrophes naturelles qui ont frappé la côte est des États-Unis, selon cette fois l'élue républicaine Marjorie Taylor Greene.
Et si on regarde l'élection du 5 novembre, Bruno, est-ce que ces outrances, on va dire, elles peuvent avoir un impact majeur ?
Il est encore trop tôt pour le dire, il faut attendre les premiers sondages post-ouragan, mais les démocrates ont bien vu le danger. Des moyens de secours énormes ont été mobilisés pour venir en aide aux populations. Joe Biden a annulé un déplacement en Allemagne ce samedi, car lui et Kamala Harris savent que dans les prochains jours, ils n'ont pas le droit à l'erreur sur ce dossier. Et puis, le 5 novembre, on verra si les fake news du camp républicain auront influencé ou non certains électeurs ou électrices.
Bruno Daroux, Le Monde en question tous les week-ends sur RFI. Restez avec nous, dans une minute, c'est le début d'RFI Matin avec Julien Coquel-Rohem. Excellente matinée.
Le goût du monde, Clémence de Navi.
Silax, un nom qui brille. Des pâtisseries insolentes de douceur et de soleil. Coco Jumbo, mango et bientôt un Paris Bamako. Chou d'Agatine. De la douceur par brassée de gâteau, comme une revanche sur la vie et les galères d'un petit dans la cité devenu pâtissier. Silamaka Sukuna est notre invité ce dimanche à 11h30 en temps universel.
Le goût du monde. Clémence de Navi sur RFI. La marche du monde. Valérie Nivelon.
À peine 40 ans et déjà syndicaliste chevronnée, Kamadi Dembakarium est l'une des militantes de sa génération les plus impliquées dans la lutte contre le clan Déby, au pouvoir depuis plus de 3 décennies au Tchad. Quand les femmes prennent la voie du syndicat, c'est le portrait d'une femme émancipée, signée Clémentine Métainier.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
À dimanche sur RFI, 15h10, temps universel.